merci d'être venu pour cette rencontre entre Benoît Maire et Catherine Malabou. Donc, c'est une rencontre un peu particulière parce que pour cette rencontre, il ne s'agit pas, en tout cas pour Catherine Malabou, de faire un commentaire sur l'œuvre de Benoît Maire, puisqu'en l'occurrence, l'invitation qui a fait que nous sommes tous là aujourd'hui. En fait, Benoît Maire donc, a invité Catherine Malabou pour participer à une œuvre, donc, dans le cadre de cette exposition qui s'appelle Histoire de la géométrie, qui présente plusieurs œuvres de cette série Histoire de la géométrie. Et donc, l'œuvre pour laquelle Benoît a invité Catherine Malabou est Histoire de la géométrie numéro 9, qui elle-même est liée à un projet qui s'appelle Libelle, qui est donc le projet qui se présente comme ce que vous voyez là dans cette enveloppe, hein, qui est en fait un projet qui dure 3 ans, et tous les 2 mois, il y a un artiste qui crée une œuvre inédite pour le projet, et il y a 1300 exemplaires qui sont distribués gratuitement auprès du public, et 30 exemplaires qui sont numérotés et signés. Donc en fait, pour cette œuvre, Benoît a choisi de mettre en relation une œuvre déjà existante qui s'appelle Halls in Philosophy, donc on voit sur l'image là-bas, qui est en fait un manuel de philosophie dans lequel il a découpé à l'endroit la définition sujet-objet dialectique. Donc il a découpé un cercle, donc il a extrait d'une certaine manière la définition du livre. Et il voulait mettre en scène finalement le rapport sujet-objet dialectique entre donc le sujet, la philosophe, l'objet, le livre et la dialectique donc, qui se construit dans cette relation. Et parallèlement à cette œuvre, il a aussi proposé un supplément, donc, qui est cette carte postale, qui est donc supplément à Histoire de la géométrie numéro 9, qu'il a réutilisé pour une autre œuvre qui s'appelle Histoire de la géométrie numéro 12, en utilisant donc ces cartes postales comme des marque-pages d'un certain nombre de livres dont Benoît constitue une liste donc qui est évolutive, c'est une liste en cours. Donc là on a dans les légendes des œuvres déjà une proposition d'un certain nombre d'ouvrages, mais il y en a déjà plus sur la table que ce qui était annoncé dans les cartels. Et donc, en fait, ces livres renvoient à une forme d'indexation transcendantale à travers différentes entrées. Mais déjà, ça, j'en dirai pas plus, puisque là, c'est déjà la matière même de cette rencontre. Et ce qui est, à mon sens, intéressant, c'est que donc cette rencontre intervient comme une espèce d'extension de l'œuvre, où Catherine Malabou est convoquée comme étant un motif de l'œuvre, un motif quasi performatif en fait, et que donc si elle intervient ce soir comme philosophe, c'est d'une certaine manière dans un rapport performatif entre la philosophe et l'œuvre, et donc tout le langage qui va être construit ce soir prend aussi cet aspect performatif qui reste en lien avec l'œuvre. Voilà pour de manière un peu générale brosser ça. Donc là, il y a un certain nombre de livres qui ont été sélectionnés, qui sont donc les fameux passages ont été marqués avec les marque-pages. Et on va lire ces passages. Tout le monde va plus ou moins lire ces passages, moi qui en ai vraiment, qui soit totalement rédhibitoire avec cette idée-là. Et après, bon, la discussion va s'enclencher entre Benoît et Catherine.
Merci Alexandra. Donc tout le contexte en gros a été expliqué. Moi je pourrais juste dire une chose sur la série Histoire de la géométrie en tant que série de pièces qui sont toutes différentes, enfin, donc j'en suis à en faire 12. Comme c'est une histoire de la géométrie, donc l'histoire ça suppose avec un H majuscule, ça suppose un certain nombre d'éléments, et la géométrie c'est quand même assez vaste, je pense que ce sera une série de beaucoup de pièces en fait. Donc, c'en est que le début. Elles ont toutes, en fait, lien. En fait, quand je dis histoire de la géométrie, ce serait histoire de la mesure, quoi, en fait, aussi. Elles sont liées à la question, au paradoxe de mesurer ce qui résiste à la mesure, ce qui excède l'idée de la mesure, mesurer l'immesurable, quoi, en gros, qui serait thématisé comme ça, comme une sorte de paradoxe, de contradiction. Un motif que j'ai trouvé donc chez Kant dans sa théorie de l'art, ce paradoxe fondamental qu'en fait Lyotard a repris à mon sens, et dont il a fait beaucoup de livres autour, qui a tenu ce motif assez longtemps. Et je ne suis pas encore, je n'ai pas tout lu de Lyotard, je commence au fur et à mesure. Et aussi dans les commentaires, donc dans un livre qui s'appelle Les Transformateurs Lyotard, qui s'est tenu il y a 4-5 ans, j'ai lu différentes choses, et on pourrait en fait dire que Lyotard, c'est ce qui a été dit, passe d'une vision d'un concept fort, c'est pas vraiment un concept, mais plutôt une forme ou un point, quelque chose qui regrouperait un certain nombre d'idées autour du figural, donc qui ferait dans le discours figure, ce serait le figural, et après il irait plus, après le différent, 84, etc., vers une idée, je ne sais pas comment introduire, c'est pas un concept, l'idée de la phrase-événement. Donc il passerait du figural à la phrase-événement, et je me suis rendu compte qu'entre les deux manières de former ces deux points lourds, je dirais, dans sa philosophie, il a aussi, entre vers les années, au début des années 80, donc ce serait 70 puis 84 pour le différent, il aurait, à la charnière de cela, commencer à donner, parce qu'on lui avait demandé, il avait donné un sorte de rapport sur le savoir, et il aurait donné le nom au postmoderne. Donc il aurait été quand même quelqu'un qui pense le postmoderne. Et ce que je me suis dit, c'est encore assez vague et assez schématique, ce serait qu'en passant du figural à la phrase événement, il passe d'une pensée de l'art qui est encore dans le paradigme moderne et romantique, en fait, à un paradigme qui serait donc celui du postmoderne et qui est conceptuel, en fait. Et dans ce changement-là, en fait, on passe dans l'art moderne, encore d'une question sur la figure, à après, dans l'art postmoderne, donc après les années 80, dans un paradigme finalement où le langage a une place très privilégiée et où le paradigme moteur serait l'art conceptuel en tant que tel. Et après, évidemment, il y a des gens qui font de la peinture, etc. Mais en tant que paradigme, on pourrait dire ça. Et donc moi, je me suis posé la question, dans ce sens-là, de savoir si finalement, quand je produis un supplément à l'histoire de la géométrie, numéro 9, là, c'est une sorte d'image. Donc on est quand même dans l'ordre de la figure. C'est une image en tant que je ne sais pas tout ce qu'elle peut désigner, de savoir est-ce qu'elle désigne vraiment quelque chose de très spécifique ou pas, je ne sais pas, à mon sens, on est aussi dans le registre de la figure là, et après, le fait de m'en servir de marque-page, je la glisse dans un endroit où il y a des assemblages de phrases, et comme dirait Lyotard, il faut enchaîner en fait, dans les phrases. Donc disons que je passe de la figure à la phrase. Et donc finalement ce que je propose là c'est un collage entre cette figure dont je ne sais pas tout et encore une fois ces textes ou ces pages là dont non plus je ne sais pas tout, mais ce que je gage, disons l'intérêt pour moi de ce collage-ci, c'est de générer un complément sur le savoir dans le cas où ce serait une sorte d'enquête. Donc c'est pour ça qu'en fait l'objet de la discussion, ce serait un peu de voir ce qu'il en est de ces collages au prisme de ce que Catherine peut en dire, d'une certaine manière. Donc, les trois premiers livres dans lesquels j'ai fait ce collage entre la figure et la phrase, c'est le livre de Lyotard, qui est son dernier livre, qui est un livre pas fini, mais que je crois notamment sa femme a insisté pour qu'on le mette en forme, c'est pas La Confession d'Augustin. Et donc, j'ai marqué cette page-là. Donc, on s'est proposé comme protocole, peut-être, de lire les trois premiers livres marqués. Donc, il y en a un de Lyotard, il y en a un de Bachelard, il y en a un de Duchamp, sans les notes de Duchamp. Et peut-être avant cette lecture-là, je peux dire les trois questions que j'ai adressées à Catherine. On lit les textes, et après, Catherine enchaîne sur cette matière-là, sur ce territoire, on va dire. Après, peut-être, on pourra poser des questions. Et après, il y a encore deux autres livres dans lesquels j'ai marqué la page. Et donc, on fera le même processus et après, on peut en parler un peu. Voilà. Donc là, on se dit qu'on pouvait lire les livres à la page. Attends, je vais faire passer ça. Les trois questions, c'était bien de les avoir à l'esprit. Dans le premier, dans Lyotard, c'est que dit un ange. Chez Bachelard, ce serait que dit un poète. Et chez Duchamp, c'est que des heures à marier.
Augustin rêve à l'autre. Au-dessus de la peau du ciel, dans un second étage de ta création, je sais qu'un autre règne est ouvert, immense, illuminé, où ce que tu penses se lit tout autrement. La bibliothèque des anges est située dans les eaux du dessus, au-delà du firmament donc. Des légions supracélestes qui la peuplent émanent un perpétuel hymne à ta louange, cantique inouï, silence. Les créatures angéliques n'ont nul besoin, comme nous, de lever le regard vers les énigmes d'un firmament, ni d'épeler des écritures pour connaître ton verbe. Car ils voient ta face à jamais, et sans le temps déroulent ses syllabes, ils y lisent les volontés de ton vouloir éternel. Merveille, lecture admirable, sans médiation, pur amour. Lectio, lectio, délectio. Ils ne cessent de lire, et ce qu'ils lisent jamais ne passe. Ils lisent l'immuable, est-ce lire, de façon immuable. Ne dit-on pas qu'un amant qui lit l'émotion qui passe sur le visage de l'aimé ? De même, il suffit aux anges de voir ta face pour la comprendre. Elle ne recèle rien par-devers soi, ni rien qui change. Présence dont nous n'avons pas idée, océan infini de lumière sans une ombre. Leur codex, aux anges, ne se clôt pas, leur livre ne se replie pas, puisque c'est toi-même qui pour eux est ce livre et que tu es éternel. Livre sans lettres, écriture inécrite, la bibliothèque des anges, à vrai dire, est vide. Kénothèque plutôt, mais parce qu'onothèque. L'être s'y livre sans livre. Le savoir, sachant, se répand sans avoir su comme une source de lumière, se diffuse en ondes lumineuses. De même que la fontaine de vie se trouve en toi, ainsi nous verrons la lumière dans ta lumière. Quand on rêve un peu aux forces qui maintiennent en chaque objet une forme, on imagine aisément qu'en tout être vertical règne une flamme. En particulier, la flamme est l'élément dynamique de la vie droite. Nous citions précédemment cette pensée novalis, l'arbre n'est rien autre chose qu'une flamme fleurissante. Nous allons illustrer ce thème en rappelant les images qui, sans fin, renaissent dans l'imagination des poètes. Avant de dire les exploits de l'imagination poétique, peut-être faut-il redire qu'une comparaison n'est pas une image. Quand Blaise de Vigenère compare l'arbre à une flamme, il ne fait que rapprocher les mots sans vraiment réussir à donner les accords du vocabulaire végétal et du vocabulaire de la flamme. Enregistrons cette page qui nous paraît un bon exemple pour comparaison prolixe. À peine Vigenère a-t-il parlé de la flamme d'une bougie qu'il parle de l'arbre. En sens, pareil à la flamme, qui a ses racines attachées dans la terre, dont il prend son nourrissement, comme la lumière fait le sien des suifs, cire ou huile, qui le font ardoir. La tige qui suce son sucre ou sève est de même que le lumignon, où le feu se maintient de la liqueur qui l'attire à soi, et la flamme blanche sont ses branches et rameaux revêtus de feuilles. Les fleurs et les fruits, ou tant la fin finale de l'arbre, sont la flamme blanche, où tout se revient à réduire. En général, si ce moteur marié doit apparaître comme une apothéose de virginité, c'est-à-dire le désir ignorant, le désir blanc, avec une pointe de malice, et s'il, graphiquement, n'a pas besoin de satisfaire aux lois de l'équilibre pesant, néanmoins, une potence de métal brillant pourra simuler l'attache de la pucelle à ses amis et parents. Ceci et celle-là correspondent graphiquement à une base solide sur terre ferme, comme la base de maçonnerie de la machine célibataire repose elle-même sur terre ferme. La mariée, à sa base, est un moteur. Mais avant d'être un moteur qui transmet sa puissance timide, elle est cette puissance timide même. Cette puissance timide est une sorte d'automobiline, essence d'amour qui, distribuée au cylindre bien faible, à la portée des étincelles de sa vie constante, sert à l'épanouissement de cette vierge arrivée au terme de son désir. Ici, le désir rouage tiendra une plus petite place que dans la machine célibataire. Il est seulement la ficelle qui entoure le bouquet. Toute l'importance graphique est pour cet épanouissement cinématique. Cet épanouissement cinématique est commandé par la mise à nu électrique, voire passage de la machine célibataire à la mariée. Cet épanouissement cinématique qui exprime le moment de la mise à nu doit se greffer sur un arbre type de la mariée. Cet arbre type a ses racines dans le rouage désir, mais les effets cinématiques de la mise à nu électrique transmis au moteur cylindre bien faible laissent, nécessité plastique, en repos l'arbre type. Graphiquement, à Munich, j'ai déjà figuré cet arbre type dans deux études. Et ne touche pas au désir rouage qui, donnant naissance à l'arbre type, trouve dans cet arbre type la transmission de désir à l'épanouissement en mise à nu volontairement imaginée de la mariée désirante. Cette mise à nu électrique actionne le moteur au cylindre bien faible qui découvre l'épanouissement en mise à nu par les célibataires dans son action sur les rouages d'horlogerie. Se greffant sur l'arbre type, l'épanouissement cinématique commandé par la mise à nu électrique. Cet épanouissement cinématique est la partie la plus importante du tableau, graphiquement comme surface. Il est, en général, l'auréole de la mariée, l'ensemble de ses vibrations splendides. Graphiquement, il n'est pas question de symboliser par une peinture exaltée ce terme bienheureux. Désir de la mariée. Seulement plus clair, dans tout cet épanouissement, la peinture sera un inventaire des éléments de cet épanouissement, éléments de la vie sexuelle imaginée par elle, mariée désirante. Ah oui, l'image.
Ah oui, et oui, après il y a l'image.
Voilà. Merci pour cette lecture. Donc, en fait, pour moi, la question qui est la mienne, qui est celle de la plasticité, pour réduire très vite. Bon, il faut toujours bien se réduire à quelque chose, donc on va dire que mon concept directeur est celui de la plasticité. Et en fait, alors qu'on pourrait penser, bon, moi je suis philosophe, et alors qu'on pourrait penser que cette plasticité, au fond, son cœur est une question sur l'art, hein, puisque art plastique, etc. En réalité, sûrement, les rapports de la philosophie et de l'art sont pour moi les plus obscurs. D'où le fait que j'ai accepté finalement de travailler avec Benoît, de faire cette photo, d'intégrer cette œuvre, pour me forcer un peu en quelque sorte. J'ai déjà réfléchi à la question, mais c'est vraiment pour moi une frontière très difficile. Je suis beaucoup plus à l'aise par exemple dans les rapports entre la philosophie et la biologie, entre la philosophie et l'art. Et donc je me suis dit, si j'avais à énoncer d'un mot, pour moi, quelle serait cette frontière entre philosophie et art, et, ou entre ce qu'il a dit, c'est entre la figure et la phrase. Je dirais la chose suivante, je dirais pour moi, s'il y a une question plastique, philosophique plastique de l'œuvre, c'est est-ce que, si je traduis dans mon langage de philosophe, est-ce que le verbe être peut être remplacé par n'importe quel autre verbe ? C'est-à-dire, est-ce que, et on va en faire l'expérience à partir des textes qu'on a lus, ce verbe qu'on dit le verbe philosophique par excellence, est-il capable de se métamorphoser, c'est-à-dire est-il une matière plastique susceptible de pouvoir être remplacée par n'importe quel autre? Donc on va en faire une expérience ici. Avec que dit un ange, que dit un poète, que désire la mariée, dans les trois cas, et rapidement, parce que j'improvise pas jamais, donc j'ai écrit un petit peu, ça va pas être long, mais dans les trois cas, donc, je vais essayer de vous présenter des images dans le commentaire de chacun des textes qui pourrait répondre à cette question ponctuellement, c'est-à-dire quel verbe va ici remplacer l'être, puisque Heidegger dit quelle que soit la langue qu'on parle, y compris dans les langues non occidentales, bien sûr, il y a toujours quelque chose, hein, c'est la thèse de Heidegger, il y a toujours quelque chose qui aura la signification et la portée du verbe être, même dans les langues on va dire dites primitives, etc., il y a toujours quelque chose qui peut être l'équivalent du verbe être. Alors d'accord, mais Heidegger ne se prononce pas sur la transformation que subit en même temps ce verbe quand il n'est pas énoncé comme tel. Alors ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les textes que m'a donné à lire Benoît, puisque c'est lui qui les a choisis, c'est pas moi, ont tous un rapport au ciel, puisque bon, l'ange, hein, vous l'avez vu, vous l'avez compris, le poète, c'est l'image chez Bachelard de la flamme. Et on va voir que la mariée, dans le texte du chant, il y a aussi une question du ciel. Donc c'est en partant de ce thème que je vais essayer de répondre à la première question que je viens d'énoncer. Donc Benoît m'a posé trois questions. On va commencer par celle-là, que dit un ange, que dit un poète, et que désire la mariée.
Je dirais qu'à ces questions, en fait, la réponse est la même, c'est-à-dire rien. Que dit un ange ? Rien. Que dit un poète ? Rien. Que désire la mariée ? Rien. Dans les deux, dans les autres textes, dans la deuxième partie de la soirée, les textes de Heidegger, on verra que quelle interprétation on peut donner de ce rien. Mais pour l'instant, on va rester sur ce rien. Ils ne disent rien, ils ne cherchent rien parce que ce n'est pas un objet qui est cherché. Que dit, c'est-à-dire quel est l'objet que dirait l'ange ou quel est l'objet que dirait le poète. Ce n'est pas un objet qui est cherché, mais ce que nous montrent ces trois textes, à mon avis, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ne posent pas la question qu'est-ce que, mais ils posent la question comment. Comment dit un ange, comment dit un poète et comment on désire la mariée. Et ce comment, tout de suite, ils répondent chacun à leur façon par un type de mouvement. Quel mouvement pour l'ange, quel mouvement pour le poète, quel mouvement pour le désir ou pour la mariée. Et on va voir que en remplaçant mouvement par le type de mouvement, on va trouver le verbe qui correspond à être. Donc pour l'instant la case vide, c'est mouvement. D'accord ? Comment bouge ? Comment mouvement pour l'ange, pour le poète et pour la mariée. Donc cette recherche du mouvement est lié, je l'ai dit, à une certaine relation au ciel. On le voit dans le texte de Lyotard, bon, il faudrait pouvoir le lire, c'est dommage que vous ne l'ayez pas quand même tous sous les yeux, mais ce que nous dit Lyotard ici sur le ciel, en fait, et sur ces anges, cet ange, c'est que le ciel apparaît comme un lieu sans lieu, c'est-à-dire un lieu qui n'a pas lieu. Un lieu qui n'a pas lieu parce que le ciel dont il est question ici n'est évidemment pas le ciel physique. Ça n'est pas un espace géographique, c'est l'espace de Dieu. Et me suis souvenu que récemment, Jean-Luc Nancy avait écrit un texte sur le ciel dans les petites conférences adressées aux enfants, qu'il publie chez Bayard, qui s'appelle « Au ciel et sur la terre », où il explique aux enfants ce que c'est que le ciel en ce sens du non-lieu, hein, pas comme ciel donc géographique, mais comme ciel spirituel. Et Nancy dit, je le cite, « Fouillez le ciel tant que vous voudrez, avec les télescopes les plus puissants et les sondes spatiales les plus rapides, vous ne trouverez pas Dieu. » Et il explique que le ciel, donc, je le cite encore, n'est pas un endroit dans le monde, mais il n'est pas non plus un autre monde qui serait encore au-dessus du monde. Dernière citation. Ce n'est pas non plus comme si on passait de l'autre côté du monde, qu'on regardait et qu'on trouvait une autre face du monde. Donc en fait, ce que nous dit Nancy, c'est que le ciel n'a pas lieu au sens où il n'est pas un endroit. Et dire qu'il n'est pas un endroit, ça veut dire qu'il n'est ni dans ni hors. Or, c'est précisément ça qui m'intéresse, et pas seulement le ciel. Là, il se trouve qu'aujourd'hui, on parle du ciel, mais c'est cette structure qui m'intéresse depuis le début, c'est-à-dire une structure de pensée pour laquelle il n'y a ni intériorité ni extériorité. Et l'espace, si on peut appeler ça un espace, et le ciel correspond bien ici parce que c'est aussi un lieu qui n'a pas lieu, l'espace dans lequel je travaille, et qui est donc l'espace plastique, est plastique, parce que précisément, il est sans dedans et sans dehors, et étant tel, il nous oblige à nous métamorphoser, donc à nous tordre sur place, dans la mesure où on ne peut ni sortir ni entrer. Donc c'est un espace qui n'est ni immanent ni transcendant. Et dans cet espace-là, donc, qui est l'espace de la plasticité, qui peut prendre l'image du ciel, mais on pourrait, dans la discussion, on peut évidemment imaginer d'autres types d'espaces, il faut que le verbe être ait cette fonction de métamorphose. Autrement, si on n'arrivait pas à transformer sans cesse notre être au monde, on serait écrasé, étouffé, mort. Je pense que c'est aussi ce que Kafka a mis en lumière dans la métamorphose. Quelqu'un qui est enfermé dans une chambre, mais une chambre qui n'est pas vraiment un dedans. Si l'être ne venait pas à notre secours pour se transformer, on serait en fait, s'il n'y avait pas de ciel, autrement dit, mais le ciel n'est ni dans ni hors, on serait écrasé par cet espace, à la fois écrasé et rejeté par lui. Donc, il faut, et c'est ma croyance philosophique, il faut que l'être ait des ressources métamorphiques, c'est-à-dire qu'on puisse se transformer d'une manière ou d'une autre, que l'être puisse se transformer pour qu'on n'étouffe pas. Alors, comment se transformer ? Première hypothèse, que l'ange, donc j'ai dit, ne dit rien, mais il est un certain mouvement, et Lyotard nous dit
quel est le mouvement de l'ange ? Au fond, il nous dit, les anges, les créatures angéliques, je le cite, n'ont pas besoin de lever les yeux, c'est-à-dire qu'ils ne regardent pas au ciel, donc le ciel n'est pas au-dessus. Ils ne baissent pas les yeux non plus, puisqu'ils lisent. Et ils lisent un texte qui, alors le texte étant Dieu lui-même, qui, parce que n'étant, Lyotard nous dit, sans signification, hein, c'est un texte, je le cite, qui ne contient rien par devers soi, ni rien qui change. Donc dans la mesure où ils lisent un livre qui n'a pas de texte, ils ont le regard horizontal, comme ça, ils ne baissent pas les yeux, et ils ne les lèvent pas non plus. Donc en fait, on voit dans ce texte-là que livre devient le verbe que nous cherchons. L'être se livre véritablement, puisque les anges lisent, mais ils lisent, c'est un verbe performatif, ils lisent rien, ils ne lisent pas quelque chose. Ils lisent, c'est-à-dire que dans ce mouvement de lecture horizontal, sans support, dans ce mouvement de lecture, c'est leur être en fait qui se livre. Autrement dit, l'être ici devient un livre, et nous avons là un premier mouvement qui est une horizontalité de délivrance autant que de lecture. L'être se livre et devient délivrance, donc lire est une première possibilité pour vivre dans l'espace plastique. Lire, c'est-à-dire être quelque part entre dehors et dedans, quand il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc voilà, l'être livre, l'être se livre. Si je fais le même jeu avec le texte de Bachelard sur la flamme, donc c'est un texte qui est tiré de La flamme d'une chandelle, très beau texte de Bachelard, que dit un poète ? Alors donc rien. Et quel est le mouvement ? Donc c'est un texte où Bachelard s'interroge sur un poète qui crée une image, et ici dans La flamme d'une chandelle, l'image du feu. Que fait un poète quand il utilise l'image du feu ? Et Bachelard nous dit rien. Le poète monte. Il monte avec la flamme. C'est-à-dire que ici, Bachelard, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque le texte a été lu, il y a une différence entre une image et une comparaison. Ça, c'est une grande obsession de Bachelard. Une image, ce n'est pas une comparaison. Le poète ne compare pas l'esprit avec le feu. Le poète monte avec la flamme. Une image, précisément, devient ce dont elle est l'image. Il n'y a pas de différence. L'image, image ce dont elle est l'image. Elle est le mouvement même de la chose dont elle est l'image. Elle ne parle pas de la chose, elle est la chose. Et c'est la différence avec une comparaison, nous dit Bachelard, qui restera toujours extérieure. La comparaison parle de l'image, prend la place. De l'image prend la place de la chose. C'est pourquoi, lorsque le poète développe, crée l'image de la flamme, en fait, il devient lui-même la flamme. Bachelard nous dit, il faut redire qu'une comparaison n'est pas une image. L'image, donc, est le mouvement de ce dont elle est l'image. Donc l'image, on pourrait dire, même pas, et effectivement là on voit qu'on peut se passer du verbe être aussi chez Bachelard, parce que la différence entre une comparaison et une image, c'est que l'image n'a pas besoin du verbe être. L'image flamme, et là aussi, d'une certaine façon, flamme est un verbe, comme l'était tout à l'heure, livre. Et ici, l'être flambe. Et c'est exactement ce que vous nous avez dit dans la dernière phrase. Cette flamme blanche où tout vient se réduire, c'est-à-dire l'être vient se réduire. Une image réussie, en fait, à la différence d'une comparaison, c'est un mouvement qui, en quelque sorte, est ontologique, effectivement. C'est l'être lui-même. Donc une image révèle l'être lui-même. En tout être vertical, il y a une flamme, c'est ce que dit Bachelard, mais on peut renverser, en toute flamme, il y a un être, il y a l'être vertical. Donc comme on avait une horizontalité de délivrance, on peut dire qu'on a une verticalité de feu, et que donc monter comme la flamme, enfin flamber comme nous dit Bachelard, que la flamme éclaire les choses, monter en un certain sens, le sens de l'image, est encore une possible façon de se tordre pour exister dans l'espace où il n'y a ni dedans ni dehors. Donc, dernière petite exercice avant qu'on fasse une petite pause là-dessus, donc La Mariée, ça c'est un texte de Duchamp. Bon, alors Duchamp, moi, je ne suis pas du tout spécialiste. L'interprétation de La Mariée pourrait remplir la pièce, hein. Donc je ne vais pas du tout me risquer à ce niveau-là, à savoir ce que Duchamp a dit, mais je vais rester dans ma ligne d'analyse. Que désire La Mariée, en fait ? Rien. Et Duchamp est encore plus radical sur l'absence d'objet, c'est-à-dire sur ce désir qui revient tout le temps dans le texte. Si on l'avait sous les yeux, on verrait ça très bien, c'est-à-dire que La Mariée est le désir lui-même. Et il le dit très clairement. Qu'est-ce que c'est La Mariée ? C'est un moteur. La Mariée est moteur, je ne me rappelle plus comment il dit ça. La Mariée est un moteur. Donc, La Mariée est un moteur, mais alors, ici, évidemment, ce qui est étrange, c'est que Duchamp nous dit que ce moteur s'épanouit. Alors, je ne sais pas si vous avez l'idée de ce que c'est qu'un moteur qui s'épanouit, mais c'est très intéressant, il parle de l'épanouissement cinétique, cet épanouissement cinétique. Donc, ici, le mouvement qui est cherché n'est pas seulement celui du moteur, qui le dit, c'est une automobile, c'est quelque chose qui avance. Bon, mais ça, ce ne serait pas très intéressant, à la limite, de dire que les choses sont des machines. Mais ce sont des machines épanouies. Alors, dans cet épanouissement, il y a évidemment le sexuel, élément de la vie sexuelle imaginée par elle, la mariée désirante, il y a plein de références, évidemment, à l'orgastique, etc. Mais il y a aussi une référence à l'auréole, hein, la mariée, l'auréole de la mariée, dit-il. Donc on voit que cet épanouissement est aussi spirituel et que ici ce moteur qui s'épanouit, il est en quelque sorte nimbé de gloire. Et on a là un mouvement qui n'est ni horizontal ni vertical, qui n'est plus ce qu'on a dit tout à l'heure, mais cette auréole que Duchamp dit électrique allume. Donc ici, ce qu'on a, c'est un éclairage du ciel par le désir. C'est-à-dire que le moteur s'épanouit et en s'épanouissant, il devient auréole et il illumine le ciel. Donc ici, éclairer pourrait remplacer le verbe être. C'est-à-dire une manière d'être au monde en étant ni dedans ni dehors peut exiger de nous aussi qu'on éclaire l'espace dans lequel on se trouve. Voilà donc ce que je vais vous livrer là. Donc, est-ce que le verbe être peut être remplacé par n'importe quel autre verbe ? Je pense qu'on pourrait jouer ce jeu à l'infini, c'est-à-dire que si on se donne cet impératif, je pense qu'on peut lire n'importe quel texte, en particulier le texte poétique, on trouvera, dans n'importe quel texte la possibilité de montrer que être est à la fois indispensable et jetable, c'est-à-dire transformable, en autre chose. Et ma question, alors cette fois à l'artiste, c'est est-ce que l'art n'a pas précisément pour fonction d'opérer ces remplacements-là, c'est-à-dire... alors que la philosophie, le plus souvent, se referme sur la question de l'être, hein, dit c'est notre truc, c'est notre spécialité, les philosophes sont les spécialistes de cette question de l'être. Est-ce qu'au fond, s'il y a un rapport entre la philosophie et l'art, c'est pas que, non. On conteste la spécificité de cette question dans la mesure où, au fond, être peut être n'importe quoi. Voilà, peut être n'importe quoi, un objet en plastique. C'est-à-dire pas seulement plastique, mais aussi quelque chose de jetable et de transformable. Et est-ce que l'art, c'est pas ça que ça fait, quoi. Voilà pour cette présentation des trois premières questions.
Bah, merci beaucoup. C'est voilà, j'ai une grosse question. J'aurais du mal à enchaîner.
Mais on peut déjà discuter entre nous.
Ouais, voilà. Parce que c'est, j'ai pris les notes, etc. Pour moi, c'est nouveau effectivement de voir est-ce que l'art opère ces remplacements-là, est-ce que c'est j'aurais besoin d'un peu de temps.
Mais c'est une question énorme en fait, oui. Puisque effectivement c'est celle de Heidegger. Parce que évidemment on a posé la question à Heidegger quand il dit la philosophie c'est la question de l'être, quoi. Qu'est-ce que vous faites vous les philosophes ? On pose la question là. Évidemment, on lui a tout de suite demandé, en particulier ses collègues japonais, « Oui, mais Heidegger, qu'est-ce que vous faites dans des langues où le mot n'existe pas ?» Bon, la fameuse langue japonaise, je pense qu'il y en a d'autres aussi, l'arabe, enfin, d'autres, où il n'y a pas l'équivalent exact, ne me demandez pas d'expliquer pourquoi, du mot « être ». Donc on dit Heidegger, donc en fait la philosophie c'est uniquement occidental, on peut pas, ce que vous dites sur la question de l'être, on peut pas du tout l'étendre, on peut pas en faire un universel, et donc Heidegger répond que si. C'est le sens de la conversation avec le japonais, il y a un livre qui s'appelle comme ça, enfin c'est dans un cheminement vers la parole, et Heidegger si, il y a toujours quelque chose dans une langue qui peut dire, qui peut exprimer ce que nous exprimons, voilà. Mais là, il s'arrête dans la mesure où il n'a pas de théorie de cette transformation. Voilà, il ne dit pas ben, par quoi ça peut être... Enfin, avec le japonais, il y a une ébauche de réponse, ce fameux iki en japonais. Bon, voilà, qui veut dire fleur de prunier, qui se... Je ne sais pas quoi. Le mouvement de la fleur ou de la feuille. Mais à part cette métaphore-là, cette image, justement... Bon, Heidegger est content comme ça, il dit ça existe dans toutes les langues, voilà. Mais il n'y a pas, après, d'approfondissement de cette question, comment ça se transforme. Et si ça se transforme, est-ce qu'on n'est pas obligé de sortir de la philosophie, voilà. Donc c'est une question énorme, c'est normal qu'on ne puisse pas répondre. Moi-même, j'en sais rien. Mon problème avec l'art, c'est ça, voilà. Si j'en avais un, il est là. Qu'est-ce que fait l'art par rapport à cette question? Parce qu'on ne peut pas dire que vous y soyez totalement indifférent. Même si ce n'est pas votre question directrice comme la nôtre. Bon, voilà.
Et est-ce que l'être dit rien?
C'est-à-dire...
Est-ce que dire cette cruche est-ce que c'est dire quelque chose?
Bah oui.
C'est validé parce que moi dans les remplacements je vois le fait de dire que la mariée par exemple elle est claire, ce serait dire que c'est sa plus grosse, enfin ce serait subsumer son être par une de ses modalités les plus importantes qui serait l'éclairage. Mais donc je vois pas un remplacement, je vois un on prend la plus importante. D'accord. Et on la subsume par une modalité de son être, de son être au monde, et donc de son être en relation. Maintenant, effectivement, moi j'aime beaucoup la question de la philosophie. L'objet de la philosophie, ce serait l'être, et donc ce serait le propos sur l'être, etc. Mais est-ce que l'être, voilà, dire S et P, est-ce que ça, c'est dire quelque chose ou... Ou alors, est-ce que c'est pas un pur collage, quoi, en fait, dans ce sens-là? Ou ce serait vraiment coller les deux, quoi, en fait, d'une certaine manière, enfin...
Effectivement, est-ce que quand on dit qu'une chose est pour Heidegger, est-ce qu'on dit quelque chose? Je te dis oui, mais en fait, ce qu'il va dire, il donne quand même un synonyme en allemand, et puis voilà, ça ouvre, en fait.
Ah, ça ouvre.
Voilà, ça ouvre, c'est-à-dire que la cruche sur la table, la fameuse, ou les souliers de Van Gogh, enfin, l'exemple qu'il prend... En fait, dire d'une chose qu'elle est, ça ne veut pas dire qu'elle existe. Bon, ça, c'est ce qu'il nous apprend. Ça veut dire qu'elle existe, ça veut dire qu'elle ouvre un monde. Donc, à partir de... Donc, elle ouvre un espace dans ce machin, qui est... dans ce monde qui n'y a ni dedans ni dehors. Donc, à partir du moment où c'est ouvert, après tout, n'importe quelle fonction d'ouverture peut faire l'affaire.
Voilà. Et donc, l'être, finalement, donc, c'est l'ouverture.
Voilà. L'être, c'est l'ouverture. C'est pas l'existence. C'est ce qui ouvre, effectivement, ce qui va... rendre possible un espace, parce que cette idée que le monde est ni transcendant ni immanent, ça vient de Heidegger, enfin, c'est cette tradition-là que je me réclame. Hein, donc.
En fait, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est qu'on revient à son histoire de sienne, puisque c'est l'exemple qu'il choisit, c'est le sienne qui ouvre. Et si je reprends votre échange, c'est de la question, mais quel est ce rapport entre l'art et la philosophie? Heidegger utilise le poète pour expliquer ce que la philosophie n'est pas capable de dire, puisqu'il cite les vers de Goethe pour dire le verbe être n'est pas substituable par aucun autre mot. Pour entendre le mot être, il faut entendre ce que dit Goethe dans ce poème
au-dessus de toutes les cimes. Alors, ist ru. Alors, comment le traduire? Il y a, c'est l'ilia, c'est de voilà la sérénité, la tranquillité, la paix, enfin, bon, le calme selon les traductions. Mais c'est comme s'il avait besoin de sortir de la philosophie pour expliquer ce qui serait le cœur même de la philosophie. Donc, je trouvais que c'était pour parler de ce ciel au-dessus donc de la cime des arbres. Qui serait cette chose qui sera encore improprement nommée par le verbe ouvrir, parce que c'est ce qui est.
Et c'est toute l'ambiguïté de Heidegger, c'est-à-dire qu'à la fois il dit ce que tu viens de rappeler, on peut remplacer par rien du tout, c'est absolument insubstituable, et en même temps, il existe dans toutes les langues. Et donc, c'est à la fois l'insubstituable et le substituable. Et l'ambiguïté de Heidegger, elle est là, et il n'a jamais tranché. Donc, pour moi, la plasticité, c'est une façon de poursuivre cette question. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut affirmer que quelque chose est irremplaçable et en même temps que ça se remplace partout? Et je crois qu'il faut l'engager, justement, dans le remplaçable.
Mais c'est très bien, parce qu'on arrive à la question de l'Ilia, donc qui suppose un événement, quand même, où il arrive avec la phrase, etc. Et donc, on peut enchaîner sur la suite.
Il y a peut-être d'autres questions, d'autres réactions ici ou là, non?
Moi, je me demandais, en fait, quand vous remplacez en fait, le verbe être par un autre verbe, ça me fait penser à, par exemple, là, au fait que, en fait, vous suturez plus, je pense, un verbe au verbe être. Et je pense que ça rejoint un peu l'idée du collage plus que de le remplacer, en fait. Parce que je pense que ce qui fait que pour nous, il a un sens vivre, c'est à cause du collage qui est possible avec le verbe être. Et après, la question, c'est que ça engage finalement la philosophie à une suture au poème. Quoi. Enfin, personnellement, c'est quelque chose qui potentiellement me dérange. Mais enfin... me questionne plus que me dérange le fait de philosopher avec et de remplacer ce verbe être finalement c'est finalement poétiser quelque chose de l'être plutôt que d'essayer d'en garder finalement de réfléchir à son noyau dur quoi, finalement c'est finalement en déplacer la problématique quoi. Et après ce qui me frappe c'est la question après le lien avec l'art c'est est-ce que si l'art après vient se suturer à la philosophie finalement est-ce que l'art est pas justement quelque chose qui est vraiment de l'ordre du poème quoi, mais du poème qui serait un poème plastique en fait, je sais pas si ce que je dis est clair.
Moi, je ne comprends pas la suture, trop. Si l'art se suture à la philosophie.
C'est-à-dire, avec le problème de l'indexation, par exemple, est-ce que là, il y a une indexation, par exemple, entre la figure et la phrase.
Ouais.
Si on suture, par exemple, la philosophie avec un matériau, par exemple.
Mais moi, peut-être que je ne dis pas que... Moi, je dis que l'image et la phrase, les deux... sont, je sais pas ce que c'est, de la philosophie, c'est de l'art. Je dis pas que l'image c'est de l'art et la phrase de la philosophie, quoi. Donc je dis pas que je suture l'art à la philosophie, d'une certaine manière, en faisant ce collage-là. C'est un collage entre une figure et une phrase.
Ouais, et quant au poème, bon, c'est vrai que c'est ce que dit Heidegger. Bon, Emmanuel a raison de rappeler ça. C'est vrai que sur lui, il n'y a que le poète qui peut. Bon, mais nous, on n'est pas du tout obligé de l'entendre comme ça. Et je dis, c'est intéressant le texte de Duchamp, parce que bon, Duchamp, pour lui, n'importe quel objet peut avoir cette fonction. Voilà, donc.
Mais le fait de coller, est-ce qu'il n'y a pas justement un irréductible qui fait qu'il y a quand même une suture quelque part?
Un irréductible, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire.
Le noyau dur de l'être, il n'y en a pas. Ça, c'est bien ce que dit Heidegger dès le début. C'est-à-dire cette ouverture, elle n'a pas de... Comme vous dites, le noyau dur, il n'y en a pas, justement. Puisque ça ne désigne pas l'existence, ça ne désigne pas le mode d'être d'une chose, mais le... En quelque sorte, rien.
Ouais. Ouais.
Donc,
mais rien.
L'ouverture.
Désolée, je suis à foutre. Le verbe de subsumer.
Oui.
Il est un peu dangereux.
C'est pas bon.
Ouais.
C'est pas bon. Je les connais pas. Ouais.
Qu'on ne pas avec un champ ouais. catégoriel.
Ouais, exactement. C'était pas bon.
C'est juste.
C'était pas bon, mais j'en avais pas d'autres. C'était, j'aurais voulu dire, la modalité la plus lourde de son être, quoi, disons. Que je, mais ça, c'est pas très bien.
Mais c'est aussi parce que c'est difficile de trouver un mot.
Ouais.
Parce qu'il s'y substitue. Bon, je sais pas si on pourrait dire guise.
Oui, voilà. Comment
guise.
Trouver.
C'est une suggestion, mais quelque chose qui garde l'idée de métamorphose, justement.
Alors, évidemment, pour moi, plasticité, c'est ce qu'il y a de meilleur. Tu vois ? Puisque c'est dit à la fois une manière d'être et puis le remplacement. Parce que guise, bon, tous ces trucs-là...
Ça, je connais pas guise.
Bah, guise, c'est Weise, c'est encore un mot d'Heidegger. C'est quand même très très précieux.
Manière,
on peut trouver beaucoup de mots. Donc voilà, on peut trouver beaucoup de mots, ça veut dire que c'est remplaçable... Donc la condition, ce que vous appelleriez le noyau dur, ce serait justement peut-être moins une définition de l'être que cette possibilité d'être remplacé infiniment, quoi. La substituabilité ou quelque chose comme ça.
Mais ça prend quand même la forme d'une nominalisation. Là, c'est ça.
Là, oui.
C'est ça qui me...
Enfin, bon, en même temps, moi, je peux pas penser sans les mots. Hein.
Ça, c'est
donc,
sûr. Il y a presque un rapport.
Bonjour.
Bonjour.
Vraiment purement métaphore.
Bah, soit c'est ça, soit on refuse effectivement le remplacement et à ce moment-là, quelque chose qui est, enfin, à ce moment-là, bon, on raccourcit beaucoup, mais ça donne le sacré.
Oui, oui, là,
d'accord. Bon, et ça, moi, j'en veux pas. Enfin, voilà. C'est-à-dire que si on dit être est à la fois le plus remplaçable et le moins remplaçable, hein, plutôt, et que vous voulez absolument ne pas le nommer, c'est-à-dire ne pas l'engager dans la substitution, à ce moment-là, il faut l'en extraire et on a la transcendance divine. C'est un autre mode de penser, mais ce n'est pas le mien. Donc pour moi, nommer les choses n'est pas un problème.
Et pourtant, vous avez parlé de croyances philosophiques.
Alors, oui, c'est très intéressant. Ouais. Donc, on y reviendra tout à l'heure. C'est-à-dire...
Ouais. Vous avez dit comment philosophie
noter, ouais.
On y reviendra tout à l'heure à ça. Mais c'est intéressant, bien sûr.
Et juste une chose. Quand on dit remplacement, on suppose qu'il y a une place, quoi, d'une certaine manière. Donc, on accorde un territoire quand même où ça effectue des choses, quoi.
Alors, voilà la croyance. C'est-à-dire, ouais. C'est-à-dire que la croyance, s'il y en a une, c'est que... Il est possible de vivre dans cet espace qui n'a ni dehors ni dedans. Oui, il y a une place à trouver. Par exemple, dans la métamorphose de Kafka, la place, elle n'y est pas. Moi, je suis fascinée complètement par cette histoire, parce que c'est quand même ça. C'est tout d'un coup quelqu'un qui dit plus « je suis », quoi, qui dit « je suis transformé ». Et qui ne trouve pas la place. Ça peut, on peut aller vers ça, je veux dire, on peut aller vers un désespoir. Moi, c'est donc si j'ai une croyance, on reviendra tout à l'heure sur ce sens, c'est que malgré tout, il est possible, effectivement, de libérer la place. Voilà.
Ouais, tout à fait.
Tu vois ?
Et là,
sans
là,
que je sache laquelle c'est, genre, personne ne le sait, mais je veux dire.
Mais c'est vrai, là ça ouvre d'autres choses aussi, ouais. Et c'est peut-être trop, mais toute la psychologie en fait aussi.
Je dirais juste une chose par rapport au travail que tu as fait, donc j'y avais pas pensé, mais bon, je devais donc lire cette encyclopédie qui a été coupée, enfin trouée, et on tombait directement de sujet à syllogisme. Et donc là, on voyait bien, il y avait toute la philosophie de Hegel dans ce trou, par hasard. Ils sont passés de sujet à syllogisme, et donc on voit bien que tout peut être remplacé, en quelque sorte. Parce que si on enlève le cœur, enfin, si on enlève un bout du dictionnaire, ça fait sens. Et ça fait, là, complètement sens, puisqu'on était dans, effectivement, Donc c'est une œuvre, à mon avis, qui met complètement en lumière ce qu'on dit.
Et c'est, moi, je pense que c'est un collage, ça.
Alors c'est possible, ouais. Après, ça je sais, oui. Justement, peut-être le collage, on y reviendra tout à l'heure, je sais pas, alors on pourra discuter, mais Heidegger dit les choses ne sont pas collées, quoi. Donc on pourra revenir à ça après. Je sais pas si le mot collage est...
Ouais, ouais. Oui, c'est vraiment... Ouais. Copule, ça vient d'où? Ça a rien à voir avec collage, non?
Copule, hein, si. Si, copule, c'est la copulation. C'est, si, c'est l'accouplement, hein, au début. Enfin,
parce qu'on ce qui dit attache... on dit l'être, c'est la copule, non, des fois?
Oui, ça attache.
Copule, ça attache, c'est un collage, presque.
On peut dire
c'est,
ça.
C'est pas loin, quoi.
Bien sûr. Alors après, peut-être on pourra discuter du collage, exactement ce que c'est.
Ouais. Hein. Et il y a toute une esthétique collagiste, etc. Enfin, c'est un truc...
C'est bien sûr. Ouais. Donc voilà, on peut lire, finir, lire les deux derniers textes. Et puis,
Donc les deux derniers textes, c'est un texte de Heidegger, donc voilà. Donc moi j'avais formulé une question là-dessus qui est un peu bizarre, enfin qui fonctionne pas ou que du moins je comprends pas à fond, mais je me demandais comme ça parce que souvent j'ai du mal à ne pas imaginer Heidegger quand je le lis un peu, enfin je l'imagine dans la nature, etc., comme ça. Et ce que je me demandais, c'était est-ce que vraiment regarder le ciel, donc c'était un immanent de l'être au monde. Mais donc finalement, ça met juste des mots ensemble, je ne pense pas que la question fasse trop sens. Mais est-ce que regarder le ciel, le fait de le regarder, c'était ça, ne pas être dans la transcendance, mais être dans une immanence justement de, au monde, quoi. Enfin, bon, c'est juste ça, je me questionnais, qu'est-ce qui se passe quand lui il regarde le ciel ou qu'est-ce qui... Bon, voilà, c'était ça dit dans cette phrase-là. Et puis après, il y en a une qui est un peu plus technique, qui peut-être... s'énonce plus clairement, qui est donc dans le change à Heidegger de Catherine Malabou. Et là, c'était la question de l'Erenis, je ne sais pas comment on dit, et je me demandais si c'était le nom donné au transcendant à la fin de la métaphysique, quelque chose comme ça, donc cet Erenis-là. Donc voilà, une qui est un peu encore poétique, on pourrait dire, je ne sais pas, et une qui est un peu plus technique finalement quand on y arrive.
Donc être étant de Heidegger. L'être après le monde, dont, pour être encore plus explicite, le sens se rapproche de ne faire qu'un avec le monde, est un existentiel fondé dans l'être au. Puisqu'il s'agit dans ces analyses de voir une structure d'être originale du Dasein, d'une teneur phénoménale avec laquelle les concepts doivent s'articuler, et puisque cette structure n'est en son principe pas saisissable à l'aide des catégories ontologiques qui nous ont été transmises, cet être après demande une approche encore plus poussée. À nouveau, nous adoptons la démarche qui consiste à l'opposer à un rapport d'être qui, ontologiquement, est essentiellement autre, c'est-à-dire catégorial, et que nous exprimons au moyen des mêmes mots. Représenter phénoménalement des distinctions ontologiques fondamentales, aussi facilement effaçables, est indispensable. Il faut le faire expressément, au risque d'avoir à expliquer quelque chose qui va de soi. À voir où en est l'analytique ontologique, il apparaît toutefois que nous sommes loin d'être suffisamment en prise sur ces choses qui vont de soi, que nous les avons encore plus rarement explicitées en leur sens d'être, et possédons encore moins les concepts structuraux sûrement frappés qui leur conviendraient. L'être après le monde, en tant qu'existentiel, n'a jamais en vue quelque chose comme l'être réuni là devant de choses qui apparaissent. Il n'y a rien de tel que la juxtaposition d'un étant nommé Dasein avec un autre étant nommé monde. Quand deux étants sont réunis là devant, nous avons, certes, coutume d'en parler en recourant parfois à des expressions comme la table est près de la porte, la chaise touche le mur. D'un contact, au sens strict, on ne peut jamais parler, et cela non pas parce qu'en vérifiant de façon plus précise, on finirait toujours par constater un espace intercalaire entre chaise et mur, mais parce que par principe, et quand bien même l'espace intercalaire serait égal à zéro, la chaise ne peut toucher le mur. Pour cela, il faudrait que pour la chaise, Il faudrait que pour la chaise, le mur puisse se rencontrer. Qu'un étang puisse toucher un étang là-devant, à l'intérieur du monde. Ce n'est possible que si là, de fond en comble, le genre d'être de l'être haut. Donc si son Dasein lui est déjà dévoilé, quelque chose de tel que le monde, à partir duquel un étang puisse se manifester dans le contact et devenir aussi accessible dans son être là-devant. Deux étangs qui sont là devant à l'intérieur du monde et qui en outre sont en eux-mêmes sans monde ne peuvent jamais se toucher. Aucun des deux ne peut être après l'autre. Donc, le change Heidegger du fantastique en philosophie. Les rénices se tournent, se retournent, se retirent et se donnent à voir changeant. Dès qu'il se montre, il s'échange aussitôt, se déproprie, soustrait à la déclosion ce qu'il a de plus propre. En ce sens, il ne désigne rien de plus, ni surtout rien d'autre que le « il » ou le « cela ». Ce qui choque un lecteur comme Jean-Luc Marion est peut-être moins la prétendue valeur nominale, substantive de l'Hérénis, qu'une conception de la donation comme change de soi. Dans la conférence, se met en place, en effet, au titre de la Verwandlung, de l'être et de la présence, l'économie d'une substituabilité ontologique originaire qui institue et destitue à la fois la donation en l'outrant des noms de ses voisins. Dans temps et être, il n'est pas simplement question pour Heidegger de transposer l'être en régime de la donation, pour reprendre la formule employée dans « étant donné ». Admettons que le terme de transposition, changement de place, interversion, permutation, traduisent adéquatement Verwandlung. Comment ne pas lui accorder plus d'importance? Comment reléguer cette transposition au rang d'un simple passage pour s'arrêter à son résultat, sans voir que W, V, comme nous l'avons dit, constitue le cœur de la conférence, l'élément au sein duquel elle se déploie, sans reconnaître que la transposition affecte nécessairement les instances qu'elle transpose? La transposition de l'être en régime de la donation implique nécessairement une transposition, un déplacement et une métamorphose de la donation elle-même. Dans Être et temps, Heidegger ne pense plus au changement ou le donner le change originaire selon une perspective génétique, si tant est qu'il l'ait jamais fait. Il les présente plutôt comme des horizons, des structures à la fois horizontales ou épocales de transformation. Les termes de l'origine se muent l'un dans l'autre en vertu de l'inchangeabilité absolue de la donne originaire. La donation perd son régime de faveur, il est vrai, mais c'est pour mieux se donner à la faveur. La nouvelle convertibilité ontologique est en effet une économie de la faveur. Ce n'est plus l'étang qui vaut pour l'être, c'est la donation. Plus le « il », puis l'Hérénis lui-même qui se retire en faveur les uns des autres.
Quand je vois tout ce fatras, j'écris plus tout comme ça, heureusement. C'est pas vrai. Bon, alors, en fait, non, mais le problème, il est très simple. C'est ça qui est terrible. vraiment. Enfin, Marc, quand on revient en arrière et qu'on voit comment on écrivait, on se dit, bon, j'ai quand même évolué. Bon, je suis désolée, mais à cette époque.
Il y a donc de la faveur.
il fallait que je me débatte avec tout ce jargon, parce que, en fait, pour traduire un petit peu, effectivement, Heidegger, il était un peu embêté, parce qu'on lui a dit un peu ce que vous avez dit, au sens. Bon, malgré tout, Heidegger, être reste un mot. Donc, si être reste un mot, ça veut dire que, quelque part, être, contrairement à ce que vous dites. Un étang, quoi, est une chose. Bon, si vraiment être, c'est l'ouverture, alors il n'y a pas. Il faut trouver quelque chose qui montre que être est ce qu'il est, c'est-à-dire une ouverture. Et là, Heidegger, donc dans la dernière partie de sa vie, et la conférence, ce que tu viens de lire, la conférence en question, c'est temps et être, donc à la fin de sa vie, l'inverse, c'est plus être et temps, c'est temps et être, vous dit, voilà, la meilleure façon d'exprimer, je ne sais pas si on peut dire, l'être, c'est de dire il y a. Non plus c'est, l'être est, mais il y a deux. Alors comme en allemand, deuxième. Il y a ce es gibt, qui littéralement veut dire ça donne. Pour un Allemand, on dirait il y a, je sais pas moi, des oiseaux, on dit ça donne des oiseaux. Donc il y a eu, dans la philosophie française, tout un mouvement qui a interrogé la donation. Et en particulier, donc, Marion, Jean-Luc Marion, qui dit, donc, être, c'est se donner. Donc, chez Heidegger, eh bien, voilà, on dit tout à l'heure, être, ça ouvre. On peut dire que ça ouvre, c'est ça donne. Mais si c'est le cas, et c'était l'objection que faisait Marion, si c'est le cas, alors, on ne peut pas attacher cette donation à quelques mots que ce soit. Et donc, donation lui-même n'est pas satisfaisant. Et donc, comme on dit tout à l'heure, quand on ne peut plus nommer, on a Dieu. Et Marion dit, bon, la vérité de l'être, c'est Dieu. Donc vous voyez, c'était toute cette discussion très 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 compliquée, qui tendait à dire que, au fond, si on voulait vraiment radicaliser Heidegger, on arrivait à la question du divin, bon, un certain divin, qui vient de ce que, par défaut, en fait, on ne peut pas vraiment penser l'être sans le figer. Et que donc, pour le penser vraiment, il faut le penser comme Dieu, parce que Dieu ne fige rien. Voilà. Donc voilà, c'était cette discussion-là, en fait, qui était en jeu, et où je répondais, j'essayais de répondre, alors vous avez vu comment, un nouvel style. J'essayais de répondre à Marion, s'il a jamais lu ça, il a dû dire qu'il est complètement folle. J'essayais de dire, en même temps, et c'était pour moi l'objection, si on revient un petit peu à ça, Dieu ou pas Dieu, quoi, hein, dans cette affaire. En même temps, si vous dites que donner ne donne rien, c'est-à-dire si vous voulez absolument sauver la donation de l'objet, alors c'est un acte d'avarice ontologique. C'est un acte absolument insupportable. Votre haine de l'étang, votre haine de l'objet, enfin, ça donne quelque chose, l'être est quelque chose, votre haine de l'objet est insupportable et en contradiction avec votre catholicisme. Dans ces pages de merde, c'est ce qui est contenu. Voilà. Et comme il y avait aussi Derrida qui disait quand je donne vraiment, je donne rien, parce que le vrai don est donc sans objet. C'était un peu ce que j'objectais, c'est-à-dire on en revient toujours à la même idée, à savoir que ouvrir d'accord, donner d'accord, mais à condition que cette donation elle-même puisse toujours se substituer en quelque chose, en quelque chose. Voilà. Sinon, si on reste dans une pure pensée, donc de l'ouvert, et il y a des artistes qui travaillent, j'imagine, dans ce sens de la transcendance, enfin, de cette ouverture absolue qui est tellement... au-delà des mots qu'on ne peut l'appeler que Dieu, le problème, c'est qu'un don qui ne donne rien, pour moi, est une idée insupportable. Et je pense que ça n'est pas ce que Heidegger a dit. Voilà, je pense que ce n'était pas là qu'il voulait en arriver. Donc voilà, je rappelle à grands traits, j'espère que c'est un peu plus clair quand je le formule comme ça, mais c'était un peu l'idée, quoi. Mmh. Non, après, on peut revenir à l'être au monde, mais... c'est un peu par rapport à la discussion de tout à l'heure, c'était d'accord, l'être est irréductible à tel ou tel objet, et en même temps il n'y a que les objets qui peuvent le montrer, que ce soit un poème, que ce soit un mot, que ce soit une œuvre d'art, que ce soit n'importe quoi. Voilà, c'est-à-dire pour moi, le fait que l'être ne puisse que se montrer dans les temps n'est absolument pas une objection à ce que dit Heidegger. Et la donation de pur qui ne donne rien est une idée insupportable. Je ne peux pas m'empêcher de comparer ça à je marche dans la rue et je laisse crever le mendiant. Quoi.
Et voilà. Pourtant, au début, tu disais le poète dit rien.
Oui, d'accord.
Ça donne rien.
Ça, on va garder cette idée que l'être ne se réduit pas à une présence. Qu'il y a cette idée d'ouverture, hein, qui n'est pas réductible à un objet. Mais en même temps, le paradoxe, c'est que cette idée-là, je crois qu'il y a deux possibilités. Soit on la garde comme telle, et à ce moment-là, on a la transcendance divine, et on dit que ce rien, c'est ce que dit Marion, c'est la générosité, ce que lui appelle le don. Mais qui est sans... Donc soit on va dans ce sens, et ce n'est pas du tout celui dans lequel je vais, soit on dit, ok, c'est rien, mais en même temps, et c'est le paradoxe, il n'y a que les choses... ce soit des images, que ce soit des, je sais pas, qui peuvent le je crois qu'une mauvaise façon de comprendre Heidegger, c'est de croire que les temps est un obstacle. C'est certainement pas le cas, enfin je pense pas, donc voilà.
Oui, moi j'avais envie de revenir à ton début de tout à l'heure et demander si finalement il n'y avait pas eu un faux départ en essayant d'expliquer à ce que l'on appelle communément des non-philosophes les problèmes des philosophes pour expliquer que le problème des philosophes mène à une impasse. C'est-à-dire que le problème des philosophes, ça serait le problème de l'être, et le problème de l'être, ça mène au problème de la nomination, et donc ça nous conduit droit à Dieu. Encore faut-il être d'accord que le problème des philosophes, c'est le problème de l'être. Parce que c'était loin d'être quand même acquis au moment où Heidegger affirmait cette thèse. Et je pense qu'aujourd'hui, encore après Heidegger, c'est loin de faire l'unanimité. Donc, il ne s'agit pas de dire que le problème des philosophes, c'est un autre problème que le problème de l'être, mais il s'agit de remettre en question cette thèse apolitique et sans appel que le problème des philosophes, c'est le problème de l'être. C'est pour ça que je trouvais que ta proposition initiale était intéressante et j'avais envie d'y revenir. C'est-à-dire que en quoi on voit une évolution dans l'œuvre de Lyotard, qui pour moi est un auteur aujourd'hui encore sous-estimé, aussi bien pour son héritage philosophique que pour son héritage, pour sa pensée plastique des objets plastiques, de là, que tu avais proposé de lire comme un passage du moderne au post-moderne, et que tu avais lu comme un passage de la figure à la phrase. Alors, je trouvais ça à la fois très... C'est tentant de vouloir comme ça appliquer une lecture historique à ce déplacement, ce change. Catherine qui essaie de changer la donne en sortant du don de Marion. Alors, changeons la donne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que passer de la figure à la phrase, même si c'est une phrase pensée comme événement? Et tu as dit, c'est le passage d'un art lié à la figure, l'image, donc au fond, quand même, au reconnaissable, parce que c'est quand même... Enfin, moi, je vois Catherine, je suis désolé. Oui, oui, mais de la figure à ce que tu as dit, ce qui ferait le propre de l'art contemporain, postmoderne, son être conceptuel. Donc c'est sur ces deux points que j'avais envie de t'interroger, si tu pouvais en dire un peu plus. En quoi est-ce qu'une pensée du figural doit être une pensée de la figure, donc du reconnaissable? Et en quoi une pensée de l'événement, ou même de la phrase événement, doit être une pensée du conceptuel? Je pourrais développer longuement, mais je pense que la question est suffisamment claire. Ouais.
Mais je crois que tu as... Ouais, enfin, j'ai jamais dit que la figure, c'était reconnaissable. Enfin, c'est vrai, enfin... Et moi, je peux reconnaître Catherine, mais... certainement pas son être, quoi, d'une certaine manière. Quoi. Enfin, ou le pourquoi de cette position, etc. Enfin, je veux dire, reconnaître... C'est pas savoir, quoi. Enfin, je te reconnais, je peux te reconnaître demain, mais... Je sais pas vraiment qui tu es, quoi, enfin, hein, au fond. Donc moi, je pense pas que la figure soit reconnaissable, ni même connaissable, etc. Donc, enfin, moi, ce que je vois chez Lyotard, et c'est aussi ça qui m'intéresse, c'est que je vois aussi un penseur qui pense au prisme de l'ouverture en tant que telle, et donc de ce qu'il ne sait pas, enfin, et qui laisse aussi advenir dans sa pensée. Disons qu'il laisse la place à son non-savoir, et que ce non-savoir-là est constitutif de sa pensée, en tant qu'elle est, que sa pensée est aussi ouverte, quoi, en fait, et qu'elle est toujours dans des dispositifs, etc. Donc moi, je vois ça. Et alors après, bon, je fais des scénarios un peu schématiques, tout ça, pour me dire, bon, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un penseur de la phrase positive, qu'est-ce que ça va être le rapport au savoir, etc. Et moi, c'est pour ça aussi que Lyotard, comment on va le placer dans la philosophie ou dans la poésie. Enfin, c'est le problème de tous ces philosophes aussi qu'on peut dire anti-philosophes, etc., parce que leur objet ne serait pas l'être ou des catégories, etc. Donc voilà, donc moi finalement, non, je ne veux pas dire que la figure soit reconnaissable et que la phrase, c'est conceptuel, il y a aussi dans la phrase quelque chose qui nous échappe, etc. Donc enfin, je pense pas dire ça. Après, c'est un peu, moi ça me fait plaisir de dire, en gros, on est encore dans un paradigme kantien pour l'esthétique, que ce soit dans la modernité ou la postmodernité, sauf qu'on passe de la figure à la phrase, dans deux modalités de quelque chose qui ne se donne pas en entier. Et c'est le et après, bon, moi je pense aussi que Lacan est génial avec son patou, etc., de ce truc de se donne pas. Et après, donc juste pour ça, je sais pas si j'ai très bien répondu, juste tout ce qui m'arrivait aussi quand on était dans le Sadone, le Marion, etc. Le Sadone, le Marion. Enfin, ce qui est fou, c'est parce que j'ai lu un peu l'Évangile selon Marc, en fait, et où ce qu'il apparaît, c'est que Dieu, en fait, est son être. Enfin, le nom de l'être pour Dieu, c'est l'amour, quoi, en fait. Et l'amour, c'est la pure relation, quoi, en fait. Mmh. Donc encore, on revient à la copula, quelque chose comme ça. Et aussi par rapport au don qui ne se donne pas. Si on a Lacan, etc., il dit bien que l'amour, c'est donner ce que l'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas.
C'est ça.
Donc c'est ce don impossible, quoi, en fait.
Voilà.
Et c'est à l'aune de cette impossibilité du don que peut-être il y a de l'amour, des trucs comme ça, pour ces penseurs-là, quoi.
Voilà. Mais là où tu as raison, complètement, Emmanuel, c'est que quand je dis la question de l'être, c'est la question du philosophe, ça se discute. Maintenant, je garderai la même question, c'est-à-dire que est-ce que le verbe être peut être remplacé par n'importe quel autre verbe pour moi, est une question qui demeure, même en dehors du cadre heideggerien. Il se trouve que là, j'avais des textes à commenter qui sont quand même un peu, bon, pas du champ, mais je veux dire, les textes que m'a demandé de lire Benoît sont quand même, voilà. Donc avec Heidegger, évidemment. Bon. Mais je veux dire que cette fonction, effectivement, même logique, hein, de la copule, pourrait, dans un autre contexte, est-ce que être remplacé par n'importe quoi? Je pense que chez Wittgenstein, ça pourrait se poser aussi. Hein. C'est-à-dire, c'est pas... tu vois, pour moi, c'est pas une question lourde. C'est pas une question heideggerienne lourde. Il se trouve que ce soir, on parle d'Heidegger, mais je suis d'accord avec toi que ça peut être complètement discuté. Maintenant, pour revenir à l'amour, effectivement, chez Marion, c'est le problème. Il dit que Heidegger n'est pas un penseur de l'amour. Bon, effectivement. S'il avait pensé l'amour, il aurait résolu la question. De l'être, est-il un mot? Est-il un bon? Si on dit l'amour, comme effectivement ce qu'on ne peut pas donner, eh ben, on en serait sorti de cette aporie. Mais ça, Heidegger n'en voulait absolument pas. Bon, voilà.
Est-ce que je peux quand même essayer encore une fois de préciser?
Vas-y, ouais.
Juste pour
te pousser vraiment dans tes derniers retranchements pour que tu défendes la position quand même du créateur. Parce que là, j'ai trouvé que tu te retranchais derrière, sans, je regrette connaître encore ton travail, mais est-ce qu'il n'y a pas justement quelque chose qui... conduit dans une toute autre direction que la direction eschatologique ou divine, quand on donne un autre sens à ce qui produit cette plasticité. Qu'est-ce que c'est que cette matière plastique? Qu'est-ce que c'est que la matrice des opérations de transformation? Ce que je voulais dire par la question du figural, c'est est-ce que le figural n'est pas déjà l'opérateur de l'événement? Est-ce que le figural, c'est pas, selon Lyotard, mais à la limite, peu importe Lyotard, ce qui fait le lien entre la phrase et l'image? C'est ce qui va venir écarter les lignes, c'est ce qui va venir contenir la page, ça va être, sans malarméen, vraiment la matrice de l'espacement. Il me semble qu'en tout cas, on pourrait lire comme ça ce premier livre, Discours-figure. Et de la même façon... Le dernier Lyotard, qui évidemment se sert de tout un vocabulaire de philosophie du langage, mais tout en insistant que ce langage n'est jamais quelque chose de purement conceptuel. Élise en dira peut-être un mot, mais il me semble que chez Lyotard, il s'agit vraiment, et je pense pour Wittgenstein aussi, de sortir de cette idée que le langage, c'est quelque chose qui se passe dans nos têtes, ou peut-être surtout dans ma tête. et à moi tout seul. Donc, en fait, en écoutant le premier texte qui était lu, je me souvenais qu'on m'a expliqué récemment dans quelles conditions Lyotard a écrit ça, puisqu'il était sous un Velux. Il écrivait ce dernier texte sur saint Augustin, sous ce Velux, en regardant le ciel. Et j'ai appris que c'était le Velux qui jouxtait le mien, parce que l'appartement de Lyotard, c'était celui qui est juste derrière le mien. Et donc, la fameuse photo, il est sous le toit.
Il se regardait tout, en fait.
Non, j'étais pas encore là à l'époque. J'étais pas encore là à l'époque, mais heureusement, c'est comme la chandelle, donc c'est vertical. Donc, de toute façon, il ne regardait que le ciel. Et donc, je me demandais si peut-être lui aussi, il avait son sublime, comme disait... Derrida, donc une bibliothèque qui serait limitée par ce toit contre lequel on se viendrait constamment se cogner. On ne peut pas aller au-delà de cette limite qui est une limite sensible. Donc tu rappelais à la lecture qu'il a fait de Kant et du sublime, une expérience au fond sensible de quelque chose qui n'est ni dedans ni dehors, pour reprendre les termes de Catherine. Le sublime, c'est pas un au-delà. Mais ce n'est pas ici non plus. C'est l'expérience de quelque chose qui n'est ni ici ni ailleurs. Et est-ce que là, ce ne serait pas là justement que se jouerait ou que ce serait à rejouer, à renégocier quelque chose comme peut-être ce différent philosophie et art? C'était un peu ça la question que j'avais envie de te poser ou de poser de façon générale.
Ouais. C'est vrai que j'ai vraiment pas de réponse ou d'idée. C'est vrai que là je sais pas, parce que d'une certaine manière ma modalité concrètement c'est de faire les choses, quoi. Donc enfin, comme on dit, voilà, enfin, pour répondre à ta question finalement, ben voilà, je l'ai fait, ça se fait, etc. Mais dans une modalité particulière où je n'ai pas de hors, je serai dedans, etc. J'ai pas de hors d'œuvre là sur cela.
T'as pas de théorie.
Non, j'ai pas
il
de.
Il faut en avoir.
J'ai pas de théorie. Bon. J'ai pas de critique, en fait. J'ai pas de. Je suis pas critique, etc. Enfin de ce que je fais. Je peux donner le goût de l'intérieur d'une certaine manière. Mais j'ai pas de phrase tout ça pour le dire. Donc ça, ce serait voilà. Et c'est pour ça aussi que maintenant, enfin, des fois, on a fait quelques interviews, notamment ici, une fois, etc. J'aime bien écouter ce qu'on me dit de plus en plus. Alors qu'au début, bon, là, ça va être un peu plus technique, quoi, par rapport à comment on fait de l'art contemporain, etc. Il faut quand même être maître de certains arguments quand on commence à faire de l'art pour pouvoir orienter la réception de son travail, quoi, et pour pouvoir dire ce que l'on fait. Et donc il faut quand même dire un peu ce que l'on fait, mais à un moment donné, bon, ce premier travail débauche, quoi, en fait, structurel, qui permet d'accompagner un peu le travail, bon, mais il est fait de telle sorte qu'après on peut s'en passer, et tant mieux, quoi, en fait. Et donc d'une certaine manière, moi je suis dedans, donc je suis dans l'histoire de la géométrie, les pièces sont là d'une certaine manière, et elles sont là, et finalement ça se trame en... Alors, est-ce que affect, ce serait bien dire, mais c'est affect et souvenir et ressouvenir, réminiscence, quoi, en fait. Parce que, par exemple, Jaffré disait, ben tiens, dans l'échelle, donc l'échelle, c'est quand même une échelle, c'est ce qui permet de me... Quand on dit échelle, la phrase, c'est mesurer, etc. Il me dit, ben ça, c'est l'atlas qui porte le monde, d'une certaine manière. Alors que quoi, c'est une boule en aluminium sur une échelle. Mais finalement, quand tu dis reconnaître aussi. Donc là, on reconnaît quelque chose dont on se souvient. Et toujours le plaisir est de reconnaissance, je pense. S'il y a du plaisir, c'est quand on reconnaît d'une certaine manière. Et là, il y a ces choses-là, quoi. Donc il y a ce langage plastique. Enfin, on appelle ça art plastique, quoi. Donc voilà. En gros, enfin, pour dire le truc. Après, si on me pose la question vraiment, qu'est-ce que c'est les procédures artistiques, bah, après, je peux répondre comme dans Logique des mondes, etc. Bah, oui, c'est une procédure de vérité. Il y en a trois autres, etc. Mais voilà.
Alors, il me semble quand même, je m'excuse, mais, que tu fais des œuvres. Effectivement, comme ça, bon, on va dire qu'ils sont reconnaissables, mais ce que j'ai vu au Palais de Tokyo, c'est hyper conceptuel. Donc la question d'Emmanuel, ouais. Des fois, il fait des trucs qui sont presque des phrases, enfin,
ah, oui.
Et dans lesquelles la reconnaissance ne marche pas du tout. Enfin, ouais. Franchement, ce que j'ai vu récemment, c'était des concepts.
T'es d'accord, enfin.
Quoi donc, enfin.
Mais est-ce que tu avais exposé au.
Avec les vitrines.
Oui, ça. Avec les vitrines. Là, c'était pas du tout ce genre de.
Oui.
De choses là.
Oui, mais j'espère quand même que le partage reconnaissable et non reconnaissable n'est pas le partage entre conceptuel et sensible.
Ah non, non, non. Mm-hmm. Mais entre phrase et ce que tu disais, voilà. Entre phrase et figurale.
Ah non.
Parce que bah, ah non. Lui, il est quand même beaucoup, Benoît, entre les deux.
La figure, ce n'est pas le figural. Attention. Le figural, ce n'est pas le reconnaissable.
Non, non, non.
Ah oui, non, mais c'est quand même.
Mais quand même.
Alors que la figure, ça l'est.
Le tard dit ça.
Ah oui, oui, la figure. Ouais.
La figure est reconnaissable, le figural ne l'est pas.
Non, mais le figural, ouais. C'est une forme, quand même.
Ah, je pense pas. Je pense qu'il y a du côté de la plasticité. Justement, le figural, c'est ce qui permet la figurabilité.
Oui, oui,
c'est
donc une puissance.
C'est vraiment important, parce que c'est pour ça que le figural, c'est ce qui précède le partage entre figure et phrase. Je le répète tout simplement parce qu'on fait souvent injustice à Lyotard sur ce point et ça me paraît important.
Ouais.
C'est quelque chose qui va permettre, qui précède l'individuation de ces supports, de ces vocabulaires, de ces alphabets. Et ce qui est important, la figure est finie, elle est déterminée, elle est individuée de la même façon que l'est le mot, la phrase. La signification déterminée. Donc il y a quelque chose d'individué, de déterminé. Le figural est par définition indéterminé. Il est le déterminant, mais il n'est pas le déterminé. Donc c'est ce qui va se jouer à la marge des signifiants. Le figural, c'est ce qui va articuler, espacer les signifiants, mais qui n'est pas lui-même de l'ordre du signifiant. Évidemment, encore moins du signifié.
Merci, parce que je ne sais pas trop encore. Merci beaucoup.
J'aurais une question pour Benoît.
Ouais.
En fait, pour en revenir à ton travail sur le livre,
ouais.
Tu le dis en fait que tu interviens en faisant un trou, en fait.
Ah oui, ce livre.
Voilà, mais en fait, ce qui. Enfin, là, c'est presque plus un commentaire qu'une question. C'est que pour en revenir à ce problème de figure et de phrase, c'est que la reconnaissance première, en fait, elle passe par la phrase, en fait. Et que l'intervention est déterminée par la phrase, et qu'après cette intervention qui a été mise sous condition de la phrase, après vient créer finalement plus une figure, c'est-à-dire une ouverture qui est une sorte de figure, qui vient après rendre possible une nouvelle reconnaissance de la phrase. Donc je me demandais s'il y avait une réelle intention de nouer la figure et la phrase dans une pièce comme ça, qui pour moi, en dernier lieu, et de l'ordre quand même de la figure.
Mmh. Je sais pas si. Mais oui, oui. Mais c'est, ça, c'est nommé par le titre, en fait.
C'est ça.
C'est « Trou dans la philosophie
». Le titre dit tout.
Le titre, ouais. C'est « Holst in philosophy ». C'est même anglo-saxon, quoi, comme pièce.
D'accord. Ouais.
Il y en a deux ou trois, quoi. Ouais,
en tout cas, merci beaucoup.
Alors, merci
à
vous.
Beaucoup, ouais.
Bon, c'est vrai que ce n'est pas très facile comme exercice pour personne. Ouais. Hein, mais...
En tout cas, c'est un exercice intéressant parce que justement, qui au départ est relativement informel et essaye à partir de la forme elle-même de l'informel, arrive à construire malgré tout une chose qui.
Tout à fait.
Voilà, moi, enfin, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir, quoi, à être là.
Non,
c'est vrai. Enfin,
qui a aimé, qui a pas aimé.
Ouais, mais non, mais moi, ce que j'aime bien, c'est la performance, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on est philosophe et puis voilà, on fait une performance. Enfin, pour moi c'est ça. C'est un truc, voilà, ça qui est bien, ça qui est bien, qui pourrait absolument pas se répéter demain de la même façon, absolument sûr, ça c'est certain. Donc, ça c'est vachement bien.